Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes adjoint PCF à la mairie de Paris en charge du logement et de l'hébergement d'urgence. Le président de la République a déclaré hier soir lors de ses vœux que la France était en état d'urgence économique et sociale. Pour vous, Yann Bressat, est-ce que la réponse apportée à cet état d'urgence est à la hauteur de la gravité de la situation ?
Le constat du président de la République est juste de ce point de vue. Bien sûr qu'il y a une urgence économique et sociale dans notre pays. Cela dit, il est quand même un peu hallucinant, au bout de 3 ans de présidence de la République, qu'il s'aperçoive de cette situation. Et surtout, il n'en tire aucune inflexion de fond en matière économique et sociale, puisqu'il propose ni plus ni moins de continuer une politique qui, sur ce plan-là, a totalement échoué.
Il annonce une série de grands travaux, des plans d'aide pour les demandeurs d'emploi. Ce n'est pas satisfaisant, ce n'est pas révolutionnaire à vos yeux ?
Non, parce que ce qui fait que notre pays est en grande difficulté sur le plan économique et social, ce qui fait que les ouvriers, les employés de notre pays ont tant de difficultés, ce sont les politiques d'austérité que le président de la République a encouragées depuis maintenant de nombreuses années, avec des cadeaux énormes qui ont été faits aux entreprises sans aucune espèce de contrepartie. Et la réalité, c'est que le président de la République ne propose pas de changer cette politique, et les mêmes conséquences sortiront forcément de la politique qu'il mène aujourd'hui.
Le 1er janvier, traditionnellement, c'est un jour d'augmentation des prix, de baisse, d'aides nouvelles annoncées. Le SMIC, par exemple, augmente à peine cette année. Il aurait fallu l'augmenter, à vos yeux, pour aider justement les Français les plus en difficulté ?
Bien entendu, on voit les difficultés de pouvoir d'achat des ménages français qui souffrent de la faiblesse des salaires et de la faiblesse du SMIC. Et je pense que l'un des gestes qu'un président de gauche aurait dû faire, c'est précisément l'augmentation du SMIC qui aurait eu d'ailleurs un effet général sur les salaires. Malheureusement, le président de la République reste sur un cap qui est un cap d'austérité, qui est un cap libéral, qui en réalité lui interdit d'augmenter le SMIC et les salaires. Et je le regrette profondément parce que ça n'est pas ce qu'on attend d'une politique de gauche dans notre pays.
Vous êtes chargé de l'hébergement social, l'hébergement d'urgence, à la mairie de Paris. Combien de personnes dorment dans la rue à Paris aujourd'hui ? Vous avez des chiffres pour ça ?
Il y en a trop, c'est difficile à évaluer. Ce qui est certain, c'est qu'il est absolument vital d'augmenter nos capacités d'hébergement. Nous avons, depuis le mois de juin, ouvert 9 centres d'hébergement supplémentaires. Il y en aura encore d'autres qui vont ouvrir dans les semaines et les mois qui viennent, notamment à la lisière du Bois de Boulogne, dans le 16e arrondissement, où nous allons créer 200 logements modulaires. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas accepter que dans un pays riche comme le nôtre, tant d'hommes et de femmes soient obligés de dormir dehors, et c'est évidemment un enjeu majeur que d'être capable de leur proposer des structures d'hébergement avec un accompagnement social.
Vous dites il y en a trop, mais on parle de 5000 personnes, 7000 personnes. Est-ce qu'on a, un peu une idée des chiffres ? Est-ce qu'on a un peu une idée de qui sont ces gens ?
On parle de plusieurs milliers de personnes. Vous savez, moi, ce qui me frappe à chaque fois que je discute avec des hommes et des femmes qui sont à la rue, qui parfois sont en centre d'hébergement, c'est que bon nombre d'entre elles travaillent, bon nombre d'entre elles créent des richesses dans notre pays, soit en tant que cuisinier, soit dans d'autres métiers qui sont des métiers difficiles et mal payés. Et cela pose la question des travailleurs pauvres dans notre pays. Comment est-ce qu'on peut accepter que des gens qui bossent, qui se lèvent le matin pour aller travailler, se retrouvent à la rue ? Ça pose évidemment la question des salaires dont on parlait tout à l'heure et qui, dans notre pays, sont trop bas pour se loger.
Mais là, c'est pas forcément un problème d'hébergement d'urgence qui se pose, non, c'est plutôt un problème de logement pur et simple. On sait que c'est un des points noirs à Paris.
Vous avez raison, enfin c'est un des points noirs. À Paris, on fait beaucoup pour le logement. La réalité, c'est qu'en France, de manière générale, on ne produit plus assez de logements depuis maintenant des dizaines d'années. Paris fait beaucoup pour le logement, on produit 7000 à 7500 logements sociaux chaque année et nous allons continuer en 2016, à ce rythme-là, la réalité, c'est qu'il faut que tout le monde s'y mette. Et de l'autre côté du périphérique, par exemple, d'autres collectivités ne font rien et comptent 1 ou 2% de logements sociaux. On doit aujourd'hui avoir une dynamique plus globale qui nous permettrait de sortir de cette crise du logement.
Mais vous dites, Paris fait beaucoup pour le logement. On a eu l'impression ces dernières années que l'accent était plutôt mis sur la circulation, les mesures pour mettre fin au règne de la voiture dans la capitale, que c'était ça la priorité affichée. Est-ce que vraiment la question du logement n'a pas été un peu négligée ?
Ah non, la question du logement est une priorité absolue. C'est d'ailleurs le premier budget de la ville de Paris. Sur la mandature entre 2014 et 2020, ce sont 3 milliards d'euros qui vont être investis sur le logement. C'est absolument considérable. Paris compte aujourd'hui 20% de logements sociaux. Nous souhaitons atteindre 25% à horizon 2025. C'est énorme. Aucune autre collectivité ne fait autant sur le logement que nous. Et je peux vous l'assurer, nous allons continuer avec ce dynamisme-là parce qu'il y a des besoins considérables et que nous sommes décidés à y répondre.
Et les classes moyennes peuvent encore vivre dans la capitale ?
En tout cas, c'est notre objectif. Moi, je souhaite que les classes moyennes, ceux qui travaillent, puissent vivre à Paris. C'est un enjeu vital et c'est aussi pour nous une richesse d'avoir des hommes et des femmes qui travaillent à Paris et qui puissent vivre dans notre ville. Et donc, on va continuer à répondre à leurs attentes, notamment en faisant du logement social qui leur est adressé.
Yann Brossat, ce matin, c'est aussi la naissance du Grand Paris qui rassemble 12 territoires, 131 communes, quand on compte les mairies d'arrondissement de Paris. Qu'est-ce que ça va changer pour les Parisiens ?
Ce que je souhaite en tout cas, c'est que la métropole du Grand Paris nous permette de réduire les inégalités à l'échelle de notre métropole et précisément par exemple que nous puissions inciter de manière un peu vigoureuse un certain nombre de maires qui s'opposaient à la production de logements sociaux à en faire sur leur territoire. Quand je vois qu'à Neuilly il y a 2% de logements sociaux par exemple, je dis que c'est inacceptable. Et donc si la métropole a une mission, à mon sens, c'est la réduction des inégalités territoriales qui est un enjeu vital pour l'ensemble des habitants de la métropole et notamment pour les Parisiens.
Et ça, ça passe par quoi ?
Ça passe, je crois, par des décisions volontaristes, par le fait d'aider les maires qui veulent construire, parce qu'il y en a, et heureusement, et de contraindre ceux qui ne veulent pas construire à le faire. Et ça, c'est tout à fait dans les compétences de la métropole, puisque le logement et l'urbanisme relèveront de la métropole et qu'il y aura un plan local d'urbanisme qui sera fait à l'échelle de la métropole.
Yann Brossat, quittons un moment le terrain social pour revenir au vœu du président de la République, au vœu de François Hollande qui a confirmé hier le maintien du cap sur la déchéance de nationalité. On sait que c'est une mesure qui provoque beaucoup de remous à gauche. Vous, on imagine, le PC est farouchement contre, non ?
Nous sommes absolument opposés à la mesure de déchéance de nationalité pour les binationaux parce qu'elle n'est d'aucune efficacité en matière de lutte contre le terrorisme et elle crée de fait deux catégories de Français et les binationaux sont transformés en Français au rabais d'une certaine manière. Et je regrette que le président de la République s'enferme et confirme cette mesure qui est d'ailleurs assez contradictoire avec tout le discours qu'il a tenu sur l'unité de la France, le rassemblement des Français. Tout ça me paraît finalement assez pétri de contradictions. Comment peut-il d'un côté appeler à l'unité de notre pays et de l'autre confirmer une mesure qui divise précisément les Français ?
Yann Brossat, merci beaucoup.